d'investigation. C'est un attentat contre le droit des citoyens à être informés. Quand on vise la presse, on vise un pilier de la démocratie.
Ces dernières années, plusieurs journalistes de l'émission...
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découvertes littéraires. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue dans cette émission, pour la troisième découverte littéraire de l'année. Les dernières émissions étaient consacrées au roman « Engrenage et sortilège » d'Adrien Thomas. Vous pouvez les retrouver sur radio-g.fr, rubrique « Voix au chapitre ». Vous pouvez aussi retrouver l'actualité de l'émission sur la page Instagram du même nom. Pour les deux prochaines semaines, je vais donner voix au premier des deux tomes d'une dilogie d'Haruki Murakami, « Le meurtre du commandeur ». Dans ce roman, nous sommes plongés à la première personne dans l'histoire d'un homme qui, après son divorce, emménage dans une maison perdue au milieu de nulle part. Cette maison appartenait à un peintre et notre narrateur est lui-même peintre. Il découvre, dans cette maison, un tableau très particulier. On se retrouve après cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Chapitre 5. Quand je commençais à habiter dans cette maison, ce qui me parut tout de suite étrange fut de ne trouver nulle part ce qu'on pourrait qualifier de tableau ou de peinture. Il n'y avait pas une seule toile accrochée au mur, et même dans les placards ou dans les remises, rien de ce qui ressemblait à un dessin. Aucune peinture de Tomohiko Hamada, aucune d'un autre peintre non plus. Les murs étaient laissés absolument nus. Pas même de traces de clous qui auraient servi à accrocher un cadre. À ce que j'en sais, tout peintre possède sa collection de tableaux, petites ou grandes, qu'il garde à portée de main, les siens et ceux des autres. Il accumule toutes sortes de peintures sans même s'en rendre compte. De la même façon que la neige, aussitôt déblayée, continue de s'accumuler. Un jour où je téléphonais à Masahiko Hamada à propos d'un sujet quelconque, j'en profitais pour évoquer la question. Pourquoi n'y a-t-il donc aucune toile dans cette maison ? Quelqu'un les a-t-il emportés, ou bien cela a-t-il toujours été ainsi ? Mon père n'aimait pas garder ses œuvres près de lui, répondit Masahiko. Dès qu'une peinture était terminée, il appelait un galeriste et la lui remettait. Ou bien, si un tableau ne le satisfaisait pas, il le brûlait dans l'incinérateur du jardin. Ce n'est donc pas particulièrement étonnant qu'il n'y ait aucune toile de mon père. Il ne possède aucun tableau d'autres peintres ? Si, il en avait 4 ou 5, des anciens Matisse ou des Braque. Des œuvres de petite dimension achetées avant la guerre en Europe. Il les avait eues par des connaissances, et à l'époque, leur prix n'était sans doute pas très élevé. Bien sûr, aujourd'hui, elles vaudraient très cher. Ces toiles-là, quand mon père a été hospitalisé, je les ai fait déposer chez un galeriste, que je connais bien. Il n'était pas question de les laisser dans une maison inoccupée. Je pense qu'elles sont conservées dans la réserve climatisée, spécialement conçue pour les œuvres d'art. Sinon, en dehors de ces tableaux, je n'ai jamais vu de peinture d'autres artistes. En fait, mon père n'aimait pas tellement ses confrères. Et forcément, eux, de leur côté, ils ne l'aimaient pas tellement non plus. Pour le dire gentiment, on évoquerait un loup solitaire. Mais en mauvaise part, on parlerait d'un marginal. Ton père a bien vécu à Vienne de 1936 à 1939 ? Oui, c'était un séjour d'environ 2 années. Mais j'ignore pourquoi il a choisi Vienne. Car ses peintres préférés étaient presque tous des Français. Puis il est revenu au Japon et il s'est soudain converti au Nyonga, dis-je. Qu'est-ce qui a bien pu lui faire prendre cette décision radicale ? Lui serait-il arrivé un événement particulier durant ce séjour à Vienne ? Alors là, c'est un mystère. Mon père ne parlait pas beaucoup de sa période viennoise. Quelquefois, il racontait des anecdotes sans importance sur le zoo de Vienne, ou sur ce qu'on mangeait là-bas, ou sur les théâtres. Mais il n'était pas très bavard quand il s'agissait de lui-même. Et de mon côté, je n'osais pas le questionner. Mon père et moi, nous avons vécu en partie loin de l'autre. Et je ne le voyais qu'occasionnellement. Plus qu'un père, il était pour moi une espèce de parent proche, une sorte d'oncle qui nous rendait visite de temps en temps. Puis à partir du moment où je suis entrée au collège, je l'ai trouvé de plus en plus pénible et je l'ai évité. Quand j'ai décidé d'aller aux Beaux-Arts, je ne lui ai même pas demandé conseil. C'est un milieu familial pas vraiment compliqué, mais pas non plus un foyer normal. Tu vois à peu près ce que je veux dire ? Oui, plus ou moins. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, mon père n'a plus aucun souvenir du passé. Ou peut-être sont-ils enfouis quelque part dans les profondeurs de je ne sais quelle fosse boueuse. Tu peux lui poser n'importe quelle question, il ne te répond pas. Il ne sait même pas qui je suis. Et sans doute ne sait-il pas non plus qui il est lui-même. Peut-être aurais-je dû lui poser différentes questions plus tôt. Il m'arrive de le penser, mais à présent, il est trop tard. Masahiko se tut pour réfléchir un instant, puis il reprit. Pourquoi est-ce que tu veux savoir tout cela ? Il y a eu un événement particulier qui t'a fait t'intéresser à lui ? Non, pas exactement, répondis-je. Sauf qu'en vivant dans cette maison, j'ai l'impression de sentir, ici ou là, comme l'ombre de ton père. Alors je suis allée à la bibliothèque chercher quelques renseignements sur lui. L'ombre de mon père ? Des traces de sa présence, peut-être ? Ce n'est pas une impression déplaisante ? Je secouai la tête. Non, absolument pas. Si ce n'est qu'une sorte de présence vague de l'homme Tomohiko Hamada continue à flotter ici, dans l'air. Masahiko resta de nouveau pensif un instant, avant de déclarer. Mon père a longtemps vécu dans cette maison. Il y a passé beaucoup de temps, aussi pour son travail. Il est possible qu'il en reste comme une certaine présence. C'est d'ailleurs à cause de ces choses-là que moi, pour être franc, je n'aime pas tellement m'approcher de cette maison tout seul. Je l'écoutais sans un mot. Je te l'ai sans doute déjà dit, continua-t-il, mais pour moi, cet homme n'a été qu'une espèce de paternel exigeant et embêtant. Il restait toujours reclus dans son espace de travail, à peindre ses tableaux, l'air maussade. Il ne parlait presque pas et je ne savais jamais à quoi il pensait. Quand nous étions sous le même toit, ma mère me mettait sans cesse en garde. « Il ne faut surtout pas déranger ton père. » Je n'avais pas le droit de courir ni d'élever la voix. Pour les gens, c'était un homme célèbre. Un peintre remarquable, oui, peut-être. Mais pour un jeune enfant, cette notoriété n'était rien d'autre qu'une source d'ennui et d'agacement. Et puis, après ma décision de m'orienter vers le domaine artistique, mon père est devenu pour moi un fardeau difficile à supporter. En bien des occasions, dès que je prononçais mon nom, je devais entendre à tous les coups « Ah, vous êtes le parent de Tomohiko Hamada, le célèbre peintre !» ou une remarque du même genre. J'ai même envisagé de changer de nom. Maintenant que j'y pense, je me dis qu'il n'était pas si méchant. Je crois qu'il essayait de chérir son enfant à sa manière. Mais il ne savait pas montrer son amour. Voilà, on n'y peut rien. Pour lui, ce qui comptait avant tout, c'était ses peintures. Les artistes, ils sont comme ça. Peut-être, dis-je. Moi, il n'y avait aucune chance pour que je devienne un artiste, ajouta Masahiko en soupirant. C'est à peu près tout ce que j'ai appris de mon père. Mais l'autre jour, tu ne m'as pas dit que quand il était jeune, il se permettait toutes les fantaisies ? Il agissait complètement à sa guise ? Quand j'étais plus âgée, il n'était plus du tout celui qu'il avait été. Il ne se ressemblait plus. Mais il semble en effet que lorsqu'il était jeune, il en avait bien profité. Il était grand et beau, c'était le fils d'un notable fortuné du coin, et de surcroît, il avait du talent pour le dessin. Fatalement, les filles, ça les attirait, et mon père, lui aussi, avait un faible pour elles. Il a même eu des problèmes assez graves à ce sujet, paraît-il. Et pour les arranger, papa et maman ont été obligés de payer. Mais d'après ce que m'ont dit des parents un peu éloignés, de retour de son séjour à Vienne, mon père avait complètement changé, comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Il avait changé ? Après son retour au Japon, mon père a cessé toutes ses virées. Il s'est enfermé seul à la maison et s'est consacré uniquement à sa peinture, semble-t-il. Et il est devenu extrêmement peu sociable. En revenant à Tokyo, il a vécu en célibataire pendant longtemps. Mais après s'être établi comme peintre et s'être ainsi assuré des revenus corrects, comme si l'idée lui était venue brusquement, il s'est marié avec une femme de sa région natale, une parente éloignée. Un peu comme s'il voulait équilibrer les comptes de sa vie. C'est un mariage assez tardif. Et puis je suis née. J'ignore s'il a eu des aventures après son mariage. En tout cas, il avait dû cesser de courir les filles ouvertement. C'était donc un très grand changement. Oui, et ses parents s'en sont montrés tous les deux très heureux. Fini tous les problèmes avec les filles. Mais que s'est-il passé à Vienne ? Pourquoi a-t-il délaissé la peinture moderne occidentale et s'est-il tourné vers le Nihonga ? J'ai eu beau interroger des gens de ma famille. Personne n'en savait rien. Et sur ce sujet, mon père était aussi fermé et muet qu'une huître. Et à présent, même si on ouvrait la coquille, l'intérieur était vide. Je remerciais Masahiko et raccrochais. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le premier tome du roman Le meurtre du commandeur d'Haruki Murakami. Bonne écoute! Ce fut par le hasard des choses que je découvris la peinture de Tomohiko Hamada, dont le thème étrange était le meurtre du commandeur. Parfois, au cours de la nuit, j'entendais de petits bruits secs provenant des combles au-dessus de ma chambre, comme des sortes de froissements. D'abord, je crus que c'était une souris ou un écureuil qui s'était introduit dans le grenier. Mais ces bruits étaient clairement différents des trottinements d'un petit rongeur. Ils ne ressemblaient pas non plus à ceux d'un serpent en train de ramper. Ils faisaient penser à du papier huilé que l'on aurait froissé et roulé en boule. Il n'était pas gênant au point de m'empêcher de dormir, mais qu'il y ait une présence inconnue, mystérieuse dans la maison, voilà qui ne manquait pas de m'inquiéter. C'était peut-être un animal qui risquait d'être nuisible. Après avoir fureté ici et là, je m'aperçus que tout en haut d'un placard de la chambre d'amis, il y avait un accès qui menait au grenier. La porte de cette entrée était de forme carrée, de 80 cm de côté environ. Je m'emparais d'un escabeau en aluminium dans la remise, grimpai dessus et, une lampe de poche à la main, je poussais la trappe pour l'ouvrir. Puis, avec une certaine appréhension, j'avançai la tête dans l'ouverture et du regard fit le tour des lieux. Baigné dans une légère pénombre, l'espace était plus vaste que je ne l'imaginais. À droite et à gauche étaient ménagées de petites bouches d'aération qui laissaient passer un peu de la lumière du jour. Avec ma lampe, j'éclairais tous les coins du grenier sans rien découvrir. En tout cas, aucun animal en mouvement. Malgré mes craintes, je m'enhardis à me hisser dans le grenier. L'air sentait légèrement la poussière, mais pas au point d'être déplaisant. L'espace paraissait être bien aéré. Il n'y avait pas tellement de poussière accumulée sur le plancher. Plusieurs poutres épaisses étaient tendues assez bas au-dessus de la tête. Mais en les évitant, je pouvais néanmoins marcher debout. J'avançais prudemment de quelques pas, examinais les deux bouches d'aération. Elles étaient grillagées afin d'empêcher l'intrusion d'animaux. Mais la grille orientée au nord présentait une trouée. Peut-être était-ce quelque chose qui l'avait heurtée et lacérée naturellement. Ou bien elle avait été déchirée volontairement par un animal qui cherchait à pénétrer à l'intérieur. En tout cas, il y avait là un trou permettant à une petite bête d'entrer et de sortir facilement. Ensuite, je vis pour de bon l'auteur de ces bruits nocturnes. Solitaire, il était caché dans l'obscurité, sur une poutre. C'était un hibou de petite taille, de couleur grise. Les yeux clos, il semblait dormir. J'éteignis ma lampe de poche, observais en silence l'oiseau un peu à l'écart de lui pour ne pas l'effrayer. C'est la première fois que je voyais un hibou de près. Plutôt qu'un oiseau, on aurait dit un chat doté d'ailes, un être vivant de toute beauté. Peut-être ce hibou passait-il ses journées à se reposer tranquillement là, et la nuit venue, sortait-il par la bouche d'aération pour se mettre en quête de proie dans la montagne. C'était lorsqu'il entrait ou qu'il sortait que ces bruits m'avaient réveillé. Il ne causerait aucun dommage. De plus, par sa présence, il n'y avait pas à s'inquiéter que des souris ou des serpents s'installent dans le grenier. Je n'avais qu'à le laisser où il était. Je ressentis une sorte de sympathie spontanée pour ce hibou. Nous avions tous deux en partage d'être par hasard locataires de la maison. Qu'il reste dans ces lieux autant qu'il le voulait. Après avoir admiré le hibou un bon moment, je m'en retournai à pas de loup. Ce fut alors que je découvris un grand paquet à côté de la trappe. Au premier regard, je compris que c'était une toile enveloppée dans du papier d'emballage. Ses dimensions étaient d'environ 1 mètre sur 1,50 m. Elle était soigneusement empaquetée d'un papier japonais brun, ficelé en outre de plusieurs tours de cordon. Il n'y avait rien d'autre dans ce grenier. Une pâle lumière qui s'infiltrait par les bouches d'aération, un hibou gris perché sur une poutre, une peinture enveloppée de papier posée contre un mur. Cette combinaison avait un je ne sais quoi de fantastique qui captivait l'esprit. J'essayais de soulever le paquet avec beaucoup de précaution. Il n'était pas lourd, juste le poids d'une toile insérée dans un cadre simple. Sur le papier d'emballage, une fine couche de poussière. L'objet avait sans doute été déposé là depuis longtemps et était resté sur place à l'abri de tous les regards. Solidement accroché au cordon par du fil de fer, une étiquette sur laquelle était notée, au stylo bille bleue, le meurtre du commandeur. Il s'agissait là, sans doute, du titre de la peinture. L'écriture laissait imaginer que son auteur était quelqu'un d'intègre. Bien sûr, j'ignorais pourquoi seule cette peinture avait été déposée dans le grenier, comme pour la dissimuler. Je me demandais ce que je devais en faire. Normalement, la correction exigeait de la laisser là où elle se trouvait. C'était la demeure de Tomohiko Hamada. Cette peinture lui appartenait très certainement, et il l'avait probablement peinte lui-même. Et pour quelques raisons personnelles, il l'avait cachée là, afin que personne ne la voie. Je devais donc la laisser là, dans ce grenier, avec le hibou. Je n'avais pas à m'en mêler. Pourtant, je ne pouvais réprimer la curiosité qui m'envahissait. J'étais en particulier fascinée par ces mots, le meurtre du commandeur, le titre de la peinture. Quelle pouvait être cette toile? Et pourquoi Tomohiko Hamada avait dû la cacher, elle et elle seulement, dans ce grenier? La prenant en main, j'essayais de voir si elle passait par la trappe. En théorie, si elle avait été transportée jusque-là en empruntant ce chemin, il ne devait pas être impossible de l'en faire redescendre. Il n'y avait pas d'autre passage donnant accès au grenier. Je voulus faire un essai, et en effet, en la mettant en diagonale, elle passait juste par l'ouverture carrée. Je tentais d'imaginer Tomohiko Hamada transportant sa toile dans le grenier. Il l'avait sûrement fait seul à ce moment-là, gardant son secret au cœur. Cette scène, je me la représentais distinctement, comme si j'en avais été le témoin. Même s'il apprenait que j'avais sorti cette peinture du grenier, Tomohiko Hamada n'était plus à présent en état de s'en irriter. Sa conscience était aujourd'hui plongée dans un chaos profond, et pour reprendre l'expression de son fils, il ne pouvait plus distinguer un opéra d'une poêle à frire. Il ne reviendrait sans doute plus dans cette maison. Par ailleurs, en la laissant là, avec le trou dans la bouche d'aération, il n'était pas exclu qu'elle soit grignotée un jour ou l'autre par des souris ou des écureuils, ou mangée par des insectes. Si cette peinture avait bien été peinte par Tomohiko Hamada, cela signifierait une perte culturelle immense. Je fis passer le paquet par la trappe pour le poser sur une étagère du placard. J'adressai un petit signe de la main au hibou, toujours blotti sur sa poutre. Je redescendis et fermai tranquillement la trappe. Je ne défis cependant pas l'emballage tout de suite. Durant un certain nombre de jours, je laissai ce paquet brun contre un mur de l'atelier, assis par terre. Je le contemplais simplement, sans but. Je ne parvenais pas à me décider s'il convenait ou non de le défaire sans autorisation. Cela ne m'appartenait pas, et même si l'on me jugeait avec indulgence, je n'avais évidemment pas le droit de déballer ce paquet sans l'accord de son propriétaire. Il faudrait au minimum que j'obtienne l'autorisation de son fils, Masahiko. Pourtant, sans trop savoir pourquoi, je n'avais pas vraiment envie de parler à Masahiko de l'existence de cette peinture. J'avais le sentiment qu'il s'agissait d'une affaire personnelle entre Tomohiko Hamada et moi, que cela ne nous concernait que tous les deux. Je n'aurais pas été en mesure d'expliquer pour quelles raisons j'avais une pensée aussi singulière. C'était en tout cas ce que je ressentais. Après avoir empilé réflexion sur réflexion et avoir littéralement dévoré des yeux ce qui, semblait-il, était une peinture enveloppée de papier japonais brun rigoureusement ficelé, je pris enfin la décision de la déballer. Ma curiosité était infiniment plus forte que mon respect des convenances et du bon sens. Peut-être s'agissait-il d'une curiosité professionnelle ou bien d'une pure curiosité d'homme à homme. Je n'aurais pu le démêler moi-même. En tout cas, que ce soit l'une ou l'autre, il fallait que je dévoile cette peinture. Tant pis si l'on me critiquait, ma décision était prise. J'allais chercher des ciseaux, je coupais la ficelle nouée serrée, puis j'enlevais le papier. Je procédais délicatement, en prenant mon temps, afin de pouvoir, s'il le fallait, la restituer dans son emballage intact. Cet extrait ne donne pas forcément à le remarquer, mais à aucun moment le nom du narrateur n'est donné. Et ce sera le cas tout au long des deux romans. Dans la prochaine émission, nous découvrirons enfin ce qu'il se cache sous l'étrange titre de ce tableau, Le meurtre du commandeur, dont ce roman d'Haruki Murakami porte le nom. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle découverte littéraire du samedi matin. Vous pourrez toujours réécouter cette émission sur le site de Radio G, rubrique Voix au chapitre, et suivre l'actualité de l'émission sur sa page Instagram du même nom. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Angers. Savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.